Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Bonjour Docteur Mayou, au téléphone je crois ce matin.
Oui, Catherine, Raphaël, Serge.
Bon matin.
Bonjour. Vous avez, oui, entendu l'étude de Raphaël, j'imagine?
Oui, ben il n'a pas comparé. Raphaël, pourrais-tu comparer maintenant les femmes PDG dans les entreprises privées par rapport aux femmes dans les entreprises publiques?
Mm-hmm.
Alors, il y a eu une montée importante de femmes responsables. Il y a eu une augmentation importante de femmes responsables dans la fonction publique, dans les entreprises publiques, parapubliques.
Ouais.
Si vous comparez CSST, SAC, etc., il y a énormément de femmes qui ont des postes de pouvoir. Maintenant, dans l'entreprise privée, c'est autre chose. Ça répond à des impératifs qui sont peu compatibles avec la féminité. N'est-ce pas que c'est bien dit, Mme Catherine?
C'est fou comment vous êtes bonifiée avec le temps. Je suis même plus nécessaire à cette chronique-là. Je vais tout vous
Catherine, j'abonde dans ton sens.
Oui.
Il faut d'abord que la personne le veuille.
Ben voilà.
Par contre, oui, il y a énormément de femmes qui veulent gérer, mais pas faire des profits. Hey, là, il faut se casser la tête, là. Hey, la compétition puis faire des profits, t'as-tu pensé, Catherine? Pas tellement féminin, ça, là.
Bon.
C'est des maudites patentes à gosses masculines, ça, là.
Mais il y a une étude complémentaire qui est intéressante de McKinsey & Co. et Lean-In. On dit que le problème ne serait pas seulement présent dans les fonctions de cadre. Et je cite, on dit les femmes demeurent sous-représentées dans tous les postes de gestion aux États-Unis, malgré le fait qu'elles détiennent plus de diplômes universitaires que les hommes depuis plus de 30 ans. Alors quand même, on met le côté...
Non, non.
Oui, le côté éducation.
Les hommes fait un sweep, elles ne veulent pas s'en prévaloir. Ah ben là, Raphaël, ça va mal ce matin.
Mais
on a payé cher, ça nous a coûté un bras. Puis elles ne veulent pas aller dans l'arène.
Ben...
Pas de coup de poing. Ouais. Ça déplace le maquillage.
Oh, docteur May, bon. Non, là, vous tombez...
Caricature.
Oui, je sais, j'ai compris votre caricature.
Non, mais c'est... Non, mais le fond est là.
Ben, le fond est là et le fond est très intéressant parce que c'est vrai que, si on parle de façon scolaire, dans les universités, les femmes maintenant, je ne me trompe pas, sont majoritaires, notamment dans plusieurs domaines, mais en bout de ligne, ça ne veut pas dire que tu obtiens des diplômes plus élevés, des diplômes de second cycle, que tu veux nécessairement devenir gestionnaire ou gérer du monde. Puis il y a l'aspect humain, il y a du monde, Dr Mayou,
oui,
qui ne seront pas capables de gérer
Catherine,
du monde.
Catherine, dans la fonction publique, ils sont devenus majoritaires, je vous le dis.
Oui, ça vous avez raison.
Mon pif me dit que dans la fonction publique, dans les organismes publics, les femmes ont une présence majoritaire.
Mais des fois, tu peux avoir le papier, les études, mais tu n'as pas les qualifications pour devenir gestionnaire aussi.
Oui, non, tout ça est vrai, mais ça n'a rien à voir.
Non.
C'est une question d'intérêt. Catherine a raison.
Ouais.
C'est que la compétition et la profitabilité, c'est pas féminin. Bon, quand est-ce qu'on va se dire ça? Faire de l'argent, c'est une affaire de gars. Bon, gérer du monde, tu peux être sûr que c'est plus une affaire de femme. Elles aiment ça, gérer.
Oui.
Mais il y a certaines femmes qui aiment faire de l'argent aussi.
Là, elle n'a pas de problème avec ça.
Oui, mais en fait, c'est pas que les femmes aiment pas faire de l'argent. C'est que il y a une fierté masculine de dire, tu sais, faire un gros salaire pour un gars, c'est hot. Hein? Il y a une espèce de côté de fierté.
Tu sais,
moi, je fais plus d'argent.
Ça a une redondance sexuelle chez les femmes. Mais l'équivalent, il y a un double standard.
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'équivalent sexuelle?
Écoute, un homme qui fait un gros salaire, disons que ça provoque chez beaucoup de femmes une certaine excitation sexuelle.
Oui. Ça, c'est
pour le moins un intérêt.
Ben, pis...
Alors que l'inverse n'est pas vrai pantoute. Alors, une femme qui gagne un gros salaire a besoin de faire attention parce que tout ce qu'elle va ramasser, c'est pas un homme excité, c'est un homme têteux.
Et docteur, vous savez
veux du lait.
dans mon entourage élargi, là, je peux vous confirmer que dans certains cas, c'est la réalité. Il y a, ouais, tu te ramasses parfois avec des hommes qui sentent le cash, mettons, qui se font vivre sur le dos d'une femme, ça existe.
Ils veulent le lait de la mamelle.
C'est bien dit. Bon, OK, on va lâcher le cash un peu.
Il y a des doubles standards, il y a des caractéristiques de genre. Et lorsqu'on va vraiment commencer à s'intéresser aux différences de genre et aux différences intra-genres, je pense qu'on va faire un bout de chemin.
C'est
ça sur quoi tu attires l'attention ce matin, Catherine. T'as peu, là.
Ouais.
votre parité dans certains domaines, vous allez vous baiser. Parce que ça ne correspond pas à un élan intérieur.
Voilà. Puis il y en a qui l'ont, là. Comprenez-moi bien, il y a des femmes qui ont ça en elles, puis qui sont excellentes, puis qui ont le goût de le faire, puis qui go, puis qui foncent. Mais au prorata, il y en a moins. Ça intéresse moins de femmes que d'hommes. On va se le dire.
Exactement.
Bon, voilà. Oui. OK. On va parler un peu de ce décret signé par Donald Trump. Mm. Votre perception des choses par rapport à ça. Tantôt, je disais, puis je vous entendais dans mes écouteurs, est-ce que ça se peut que sa fille a eu de l'impact sur sa décision ou ça n'a rien à voir?
Écoute, ils sont habiles. Ils sont habiles pour des mises en scène. J'appellerais ça, on va s'en rappeler comme étant le décret de l'hypocrisie. Mm. Hey, y a-tu quelqu'un qui a déjà regardé des vieux films sur les migrants ou lu des articles sur comment se faisait l'immigration? Ça se faisait par des hommes puis des hommes jeunes, la migration. Ils venaient chercher de l'argent puis ils envoyaient ça par Western Union ou d'autres moyens à l'époque à leur famille. Maintenant, les migrants arrivent en famille et beaucoup de femmes avec des jeunes enfants.
Ouais.
Pourquoi? Hein, si ce n'est de manipuler l'opinion publique? J'ai hâte que quelqu'un réalise ça, là. C'est que les migrants sont tous maintenant installés avec des cellulaires. Imaginez-vous donc. Puis ils communiquent entre eux. Ils suivent l'actualité, les migrants.
Oui, mais...
On se fait manipuler. Je l'appelle le décret de l'hypocrisie. Puis là, ça peut rassurer Robert, les enfants qui pleurent, là. Écoute, il a seulement assisté à certains enlèvements d'enfants par la DPJ. Il va voir que ça pleure solide. C'est autre chose que ce qu'il a vu à la télé.
Ben oui, c'est sûr que dans d'autres situations, ça existe aussi, là, des enfants. Oui,
un rachat. On se fait manipuler. L'opinion s'est rendue un sport international de manipuler l'opinion publique.
Mais alors, si on manipule l'opinion publique, pourquoi changer d'idée d'abord?
Oui, parce que, écoute, il y a ces raisons-là. Pourquoi il a changé d'idée? Parce que ça devenait... il y avait une tendance, puis j'ai l'impression qu'il va l'exploiter. Soit dit en passant, dans la politique, j'entends régulièrement des politiciens dire qu'un an et encore plus 2 ans, c'est une éternité en politique.
Ah oui,
il va s'en passer des choses. Ouais. Avant de dire que Donald Trump ne sera pas réélu, là, attention!
Ce qui est intéressant, Dr. Mayhew, c'est qu'hier, Paul Oud parlait avec un homme, un Québécois qui habite le Mexique depuis au-delà de 20 ans.
Et non, Californie?
Non, les deux. Non, les deux, là, vous mélangez. Okay. Là, vous parlez du cannabis, moi... Oui, 30 secondes. Là, oui, ils ont parlé avec un Californien sur le cannabis, mais ils ont aussi parlé à un homme qui habite, je pense même Mexico, depuis au-delà de 20 ans. Et il disait que présentement, la nouvelle qui fait le plus jaser, c'est bien plus le mur que les migrants qui tentent de traverser. Et Paulo lui a demandé à cet homme-là, il dit, pensez-vous que ça va avoir un impact, les images qu'on voit? Il dit, absolument pas. Ça n'empêchera pas en tout les gens de passer. Ça n'a aucun impact. Et les gens en discutent, oui, mais... sans plus. C'est fou, hein, comment la perception, quand tu revires ça de bord. Au Mexique, ouais, on en jase, mais c'est le mur qui fait jaser. C'est vraiment ce dossier-là, encore une fois, aujourd'hui.
Des enfants qui pleurent au Mexique, tu ne feras pas broyer personne. Hein?
Ben, je ne sais pas si c'est ça.
Des enfants qui pleurent dans l'Amérique hypocrite, qui s'étaient targués de bien prendre soin de ses enfants, aïe aïe. Ça fait mal.
Mais mon point, Dr. Mayhew, puis le point de Paul Oud, c'était de dire que malgré tout ce qu'on voit comme image, ça n'enlèvera pas le goût à des Mexicains de passer la frontière illégalement.
Ouais.
En tout cas,
écoute, l'histoire du mur, c'est drôle qu'on attribue. Mais c'est pour ça que je dis que c'est le décret de l'hypocrisie. Vous ne trouvez pas ça drôle que le fameux mur entre le Mexique, il y a quoi? Il y a 600-700 kilomètres de fait déjà ce mur-là était fait avant Trump.
Oui.
Mais vous trouvez pas ça bizarre? On attribue le mur, on démonise Trump avec son idée de compléter le mur sur la frontière mexicano-américaine. Alors que ce mur-là, ça fait longtemps, il y a des clôtures de longue date.
Oui, mais c'est ça, c'est des clôtures.
C'est surveillé par des gardes armés de longue date.
Ouais.
Il arrête du monde depuis je sais pas combien de décennies.
Mais ça a été...
Et que dire du mur de la honte? Personne n'ose parler de ça. Le mur de la honte que les Israéliens ont érigé en plein Israël. Il y a 600 kilomètres de long, puis il y a 8 mètres de haut, ce mur-là. Avez-vous pensé? Ouais. Personne ne dit un mot, mais vous êtes... Quelle hypocrisie!
Ouais,
mais... Ça l'a divisé des familles, des villages, des propriétés. C'est honteux, ce mur-là! Ils ont créé une espèce de prison à ciel ouvert pour les Palestiniens, en plus de Gaza, là. C'est à part de Gaza.
Mmh. Oui, mais savez-vous quoi, Dr Mayou?
Puis là, Trump, c'est épouvantable. Il parle d'ériger un mur. Le mur, il est fait.
En partie.
Bon,
ouais.
Les clôtures sont là.
C'est ça. C'est des clôtures. En plus, c'est pas le mur de Berlin, là. C'est des clôtures qui sont... Mais ils sont là depuis quand? C'est ça que je voudrais voir. Ça a été érigé sous quel gouvernement?
Ah, ça fait longtemps.
Oui, je le sais, ça
fait
longtemps.
Ça fait longtemps que c'est comme... Mais oui. Puis il y avait des patrouilles de garde armée à cheval de très longue date.
Oui. OK, fait qu'on retourne dans l'histoire pas mal, là.
Ben, écoute, on est loin. Et ça a été fait par bout sous différents présidents.
Ah, OK. Bon, alors on va peut-être se...
Là, tout d'un coup, le mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est Donald Trump qui va faire un mur. Mais quel... C'est épouvantable. Faut pas suivre l'actualité.
On me dit sous Bush père. Peut-être valider l'information, Raphaël.
Oui. Puis avant ça, il y avait des clôtures. Écoute, c'est vieux comme la lune. Ouais. Là, ils ont monté des murs par bout parce qu'il y avait trop de passages.
Mais il y en a... Je suis fatiguante avec mes questions ce matin. Raphaël, je te bombarde, mais quotidiennement, là, il y a combien de Mexicains qui essaient de passer les frontières? On parle-tu de milliers de Mexicains par jour qui essaient de passer aux États-Unis? C'est ça que je... On va vérifier tout ça. On va vous revenir avec les chiffres officiels.
Oui, c'est en termes de milliers. C'est en termes de milliers parce qu'ils s'en vont travailler. Écoute, ils s'en vont travailler dans le sud des États-Unis. Californie, Floride. Et il y en a plusieurs qui le font légalement, puis d'autres le font illégalement.
Oui. OK. On va point là-dessus, Dr Mayou, juste avant qu'on termine.
Oui?
Question pour vous. Page 8 du Journal de Montréal. Pas de prison pour la mort de son bébé. C'est une mère responsable de la mort de son bébé. Elle l'a allaité alors qu'elle avait pris de la drogue. Donc, elle prenait du speed. Elle en avait pris la veille. Elle a allaité son bébé et à son réveil, la fillette de 7 semaines était décédée. Elle a dit, au départ, je pensais que j'avais écrasé mon bébé. Visiblement, elle dormait avec son bébé de 7 semaines. Et finalement, deux autopsies, des analyses en toxicologie qui ont révélé la présence de méthamphétamine. La méthamphétamine, le speed, ça peut tuer un bébé, Dr Mayou?
Bien, ça peut donner des... C'est un psychostimulant.
Ouais.
Et ça active aussi, ça stimule le système nerveux autonome. Alors, possiblement qu'il est décédé d'arythmie cardiaque.
OK.
C'est comme faire prendre 5 cafés à jeun à un bébé. Alors, le danger, c'est son petit cœur va battre très vite, puis à un moment donné, il va tomber dans l'arythmie. Il va avoir un rythme irrégulier, puis il risque de s'emballer ou de cesser de battre.
Sauf qu'à 7 semaines comme ça, c'est peut-être plus difficile hein, de confirmer la théorie. Entre ça puis la mort subite du nourrisson, est-ce que ça se peut qu'on mélange?
Ouais, ben c'est pas évident, là. C'est pas évident, cette histoire-là, parce que j'ai vécu, là, on a perdu notre premier, on l'a perdu dans la mort subite du nourrisson, et c'est pas évident.
Non.
Ouais. Maintenant, dans le cas de cette femme-là, j'espère que le système de justice va au moins la condamner à une ligature des trompes.
Je pense pas que ça
au
fait
moins, peur. Minimalement. J'espère, autrement, ce serait un peu une farce.
Oui, mais ça fait pas beaucoup partie de notre processus judiciaire. De ce que j'ai compris hier, tous les intervenants disaient qu'on faisait face à une femme qui était en parfaite réhabilitation. On avait l'exemple parfait de la réhabilitation au Québec. Là. C'est tout. Alors voilà.
C'est arrivé au Québec ou aux États-Unis, ce décès-là?
Non, c'est arrivé, c'est ici, c'est à Montréal, au Palais de justice de Montréal, à Saint-Jérôme, pardon.
Saint-Jérôme.
Oui, voilà.
Ben écoute, ordonner une ligature des trompes au Québec, quelle ignominie, n'est-ce pas?
Ben oui, c'est ça.
On veut incarcérer Alexandre Bissonnette pour 150 ans, qui est un peu une farce. Et on fait un grand débat là-dessus. C'est très sérieux comme débat à Québec. Mm. Et là, à Saint-Jérôme, une femme, écoute, possiblement a tué son bébé avec une présence d'amphétamine, puis elle est en réhabilitation. Et il ne faut surtout pas lui ordonner une ligature des trompes.
Non, elle veut aider les autres là, contre la drogue. Elle veut s'impliquer auprès des jeunes de nous suivants.
Oui,
on est beaucoup là-dedans au Québec. On est dans le de nous suivants. Je te dis qu'il y a une longue liste.
Oui.
Bon.
Oui. Mais quand est venu le temps de faire examiner, de suivre la loi et de traiter, d'accorder tous les droits auxquels... auquel ouais. pouvait se prévaloir Alexandre Bissonnette. On ne l'a même pas examiné en psychiatrie pour savoir s'il avait toute sa tête ou pas. T'sais.
D'ailleurs, on a fait des vérifications. De ce que j'ai compris, Dr Mayou, la première expertise psychiatrique, c'était fait par le Dr Chamberlain.
Oui, Gilles Chamberlain.
Et ça a été fait... je pense en avril.
Exact. Donc, c'est en janvier que c'est arrivé et en avril, par la suite, on a eu l'expérience psychiatrique.
C'est long, hein? Ça fait 3 mois, ça.
Ouais. Hein? Ben, écoute, trois mois après. Et est-ce que les médecins lui avaient donné de la médication en prison? La réponse, c'est fort probablement oui. Mm-hmm. Alors, dans votre rapport, t'as pas vu ça, n'est-ce pas? Et moi, ce à quoi je suis confronté régulièrement, c'est l'espèce d'omerta, de silence sur les médicaments qu'on va donner à quelqu'un en prison. Et par la suite, on va l'examiner ou bien permettre au juge de tirer ses inférences sur le comportement du prisonnier alors qu'il est bourré de pilules. Ça, je trouve ça assez particulier.
Ouais.
Alors, j'inviterais les juges, lorsqu'ils veulent observer les comportements des détenus dans le palais de justice, dans la cour, dans leur cour, de s'assurer que le détenu n'est pas médicamenté. Autrement, la lecture comportementale risque d'être fort erronée, n'est-ce pas?
Bien, absolument. Comment on peut penser, Dr Mayou, que 3 mois plus tard, 3 mois après les événements, un individu qui, selon vos dires, et je pense qu'il devait l'être médicamenté, comment peut-on penser qu'il a maintenant la même analyse, le même comportement qu'il y a 3 mois? On s'entend-tu que c'est pas pantoute la même affaire? On parle pas du même individu.
Ça fait partie des stratégies de Chamberlain et compagnie de retarder le plus possible après multiples essais thérapeutiques. Puis après ça, bon, on tire des inférences, on arrive à des conclusions, etc. C'est pas... Alors que c'était très facile, 3 jours après, de mandater Sylvain Fauché ou La Liberté à Québec. Écoute, il y en a à Québec qui font juste ça.
Ouais.
Qui travaillent régulièrement pour la Couronne. Comment se fait-il que la Couronne n'a pas fait examiner Bissonnette par Fauché le lendemain ou le surlendemain?
Je ne sais pas, c'est une question qui demeure en suspens. Docteur Mayou, on a des détails en terminant sur le mur en question, le fameux mur entre le Canada et le Mexique. Qu'est-ce que tu as trouvé,
Raphaël? Non, les États-Unis.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Canada et Mexique.
J'ai inventé une frontière entre deux pays. Je m'excuse, les États-Unis et le Mexique.
Oui, et l'auditeur avait raison. Ça part de George Bush père. Alors, c'est à partir de 1991. Il y a une barrière primaire qui avait été établie, qui avait été construite entre San Diego et Tijuana, et suivie par des barrières secondaires. Mais par la suite, c'est George donc Bush fils, le 26 octobre 2006, qui a promulgué la loi de Secure Fence Act destinée à renforcer la surveillance de la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
Intéressant quand même.
Convenez que ça fait des lunes, n'est-ce pas? On est loin de Donald Trump, là.
Oui, ça totalisait déjà 1,200 kilomètres, pardon, soit un tiers de la frontière, et une barrière entre les États-Unis et le Mexique de 4,50 mètres devait être construite à cette époque.
Et Dr Mayou, en
1200 kilomètres?
Oui.
Seulement? Écoute, à l'époque, je pense que Donald Trump était dans le trouble. Il n'était pas dans le trouble avec son casino d'Atlanta. Lui, à l'époque, il n'y avait pas une patente. Avec...
Ouais.
Il n'était pas dans le trouble financièrement. Lui, à l'époque.
Ça se peut. Je voudrais voir.
Il n'était pas trop. On était loin de la barrière avec
non,
lui.
Non, non, on n'était pas là-dedans pantoute.
Alors là, il y a eu Bush père, il y a eu Bush fils, il y a eu Clinton. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis? Allez, on parle de trois
fois. Il y a eu Reagan?
Ronnie,
ouais, c'est... Exact.
Attends un peu. Est-ce que Ronnie était avant Bush père? Oups, attention. Je me souviens.
Oui, Ronald Reagan était. Oui, il était avant Bush père. Oui. Oui, parce que.
Oui.
Je me démêle dans mon histoire américaine. Là. C'est sûr que là, on est en onde live. Là. Des fois, on a des petits blancs. Mais Ronald Reagan était avant Bush père. Je pense pas me tromper là-dessus. Là.
Okay. OK. Alors, il y a eu Bush père, Bush fils, Clinton, minimalement. Ouais. Écoute. 1200 kilomètres de déjà construit. J'ai hâte qu'on me foute la paix, moi, avec le mur qu'on attribue à... Écoutez, attribuer n'importe quoi à Donald Trump, mais s'il vous plaît, soyez juste.
Ce qu'on me donne comme information, notre patron nous écrit, Bush père était le vice-président de Reagan à l'époque. Il était VP de Reagan.
C'est vrai.
Alors, on se cultive ensemble. Dr Mayou, il faut se laisser 7h32. On se reparle demain matin, 7h10. À demain.
Excellent. Bye.
7h32, on se fait de l'histoire ensemble. Merci de collaborer puis de nous aider. Vous savez, on fait de la radio en direct. Des fois, on a des petits blancs de mémoire. Merci de nous ramener sur le bon chemin.